Bulle d'interview, c'est maintenant sur Radio Bulle Rythme la Jeunesse. Amia avec vous. Les amis, vous le savez, on a à cœur de partager avec vous les talents locaux. Aujourd'hui, on fait un focus sur un auteur dont on a déjà parlé il y a deux saisons. Il s'appelle Stéphane Pucheux. Bonjour Monsieur Pucheux.
Bonjour Samia, bonjour à tous.
Vous allez bien ?
Ça va, très bien, merci.
Vous m'avez fait découvrir la littérature abstraite il y a deux saisons avec
oui.
Magnus, à l'époque,
oui.
qui revient en force cette saison.
Absolument, il continue de raconter sa déambulation au sein toujours d'entités assez analogues, à savoir la ville avec un V majuscule, un espace qui se métamorphose et lui-même, donc sur sa monture, en train d'avancer dans ce monde à découvrir.
Un monde à découvrir. Alors, la ville, alors, quand j'ai lu Magnus la première fois, effectivement, j'avais l'impression d'être dans un espace spatio-temporel en mouvance, en permanence.
Oui.
C'est aussi la clé de la littérature abstraite, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite, si je ne me trompe pas, et qu'on donne un peu libre cours à son imagination. À l'époque, je vous avais fait un petit peu la comparaison avec un tableau.
Oui.
En regardant un tableau, il va tous nous inspirer quelque chose de différent, et en vous lisant, on a l'impression, quelque part, de regarder un tableau.
Oui, c'est ça. Votre remarque est très pertinente. J'y réfléchis après et je me suis dit, c'est à la fois le reflet de ma culture picturale. J'aime beaucoup la peinture. Donc, ce n'est pas tout à fait un hasard. Probablement, si on la sent, on l'aperçoit au travers de ma littérature. Tout comme d'ailleurs le cinéma. Vous auriez peut-être pu... me dire, par exemple, ça aurait été un peu la même chose que votre littérature est cinématographique. C'est ce qu'on me dit parfois à juste titre. Alors effectivement, on retrouve toujours cette mouvance, cette mobilité que vous avez fort bien soulignée, qui veut dire tout simplement que la littérature abstraite, c'est de la littérature moderne. C'est une réinvention de la littérature où plus humblement, l'invention d'une littérature, comme me l'avait dit mon éditeur de toujours, Patrick Sintas, et elle montre que les choses sont à faire tout le temps. Contrairement, si vous voulez, à l'histoire, au schéma classique de l'histoire, dont j'ai parlé, me semble-t-il, qui est un schéma certes intéressant, avec des personnages, une intrigue et un dénouement, pour faire court, mais ça n'est pas du tout... ni ma vision de la littérature, ni ma vision du monde. Je pense que les choses sont ouvertes en permanence. Alors bien sûr, il faut une unité à construire. Et cette unité, elle se forme peu à peu au fil de l'écriture.
Alors en l'espèce, sur le personnage de Magnus, comment vous pourriez le présenter pour de possibles lecteurs qui voudraient s'attaquer à la série ? Parce que là, on est quand même sur un tome 3 et vous me disiez en préparant l'interview que vous en avez encore pas mal en préparation.
Oui. Alors en un mot, vous me posez la question toute simple. Qui est Magnus ?
Oui.
Ah, c'est une bonne question. J'essaie de savoir qui est ce personnage central au sein de mon œuvre. En écrivant sur lui depuis maintenant 5 ans. Ce qui fait que j'ai écrit un certain nombre de tomes. Celui-ci, c'est le troisième. Ce qui apparaît avec certitude, c'est que c'est un chevalier de temps à la fois ancien et moderne, qui est sur son cheval, sur sa monture, qui se métamorphose elle aussi d'une séquence à l'autre. Le livre étant composé de 10 nouvelles, soit par exemple 10 chapitres, et on découvre peu à peu l'identité de cet homme qui n'a a priori ni passé, dont on ne connaît pas la conscience, mais qui va se dévoiler au fil de la narration. Donc finalement, au fil du cours de la vie.
Il est insaisissable en quelque sorte. Est-ce que vous l'avez capté ?
Oui, je l'ai capté puisque c'est quand même un peu moi. Et c'est aussi un personnage de fiction qui me plaît beaucoup, qui m'intrigue personnellement, à qui je donne beaucoup de valeur. Je crois aussi que c'est une partie de ma conscience qui dit un certain nombre de choses sur plusieurs thèmes. son rapport au monde. Sûrement que la ville dit beaucoup de choses en miroir à ce cavalier. Est-il finalement à l'aise dans le monde tel qu'il est ? Donc moi, en tant qu'auteur, suis-je à l'aise dans le monde dans lequel je suis, dans notre époque ? Il y a sûrement un lien à faire à ce niveau-là.
C'est vrai que le décor de la ville, vous l'avez imposé. Pourquoi ?
Le décor de la ville, oui, et en même temps, il change.
Un chevalier dans la ville, ça fait penser un petit peu, entre guillemets, aux visiteurs. Désolé pour cette comparaison, mais ça veut dire qu'il y a une brutalité quand même dans la rencontre des champs.
Oui, ça, c'est tout à fait vrai. Et on peut y voir ma relation assez, je dirais, conflictuelle, au bon sens du terme, avec notre époque. Je ne me sens pas du tout en décalage. En revanche, je me sens tout autant appartenir à des temps très très anciens, notamment romains, qu'actuels. J'aime cette idée d'intemporalité, mais surtout de la présence d'un passé qu'on a peut-être tendance à évacuer aujourd'hui. Alors que pour se projeter, pour tous les problèmes que nous avons à affronter, il faut bien lire le passé et s'en inspirer pour changer un certain nombre de choses.
Magnus, le tome 3 aux éditions Le Lys Bleu. Vous avez changé de maison d'édition ?
Oui. J'ai trouvé une phrase avant de venir. Les relations entre les auteurs et les éditeurs sont tout sauf un long fleuve tranquille.
En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que l'histoire que vous écrivez avec le Lys Bleu a l'air plutôt porteuse, puisque vous nous amenez une autre nouvelle. Et donc, sans transition, on passe de Magnus à Drusilla. C'est toujours des personnages forts qui sont mis en avant. Déjà, oui. Le prénom Drusilla.
Oui. Vous lui trouvez peut-être une sonorité spéciale, esthétique ?
Moi, ça me fait penser à Dracula, mais c'est juste c'est Dracula féminin, quoi. Mais ça, c'est moi, c'est mon imaginaire. Hein. Mais comme on est sur de la littérature abstraite, je pense qu'on peut un petit peu aller où on veut.
Oui, c'est une jolie comparaison, effectivement. J'aime beaucoup Dracula. Alors, Drusilla, comme Magnus, ça sonne latin, bien sûr. Je suis très sensible à l'esthétique des prénoms et aussi des noms de villes. Alors, Drusilla, en un mot, je ne dirai pas tout non plus, évidemment, puisqu'il faut la découvrir, mais c'est un personnage qui devient aussi central que Magnus et qui est né en 2015, même bien avant. Mais disons que 2015 sort mon livre « Le narrateur ». Et dans ce livre, dans l'une des nouvelles du livre, il y a Drusilla. Et qui est Drusilla en 2015 ? C'est la servante du narrateur, qui habite dans une très grande demeure. Et c'est une femme qui est à la fois aussi sa confidente. On sent qu'entre eux, il y a une relation forte et assez énigmatique. Voilà le point de départ. Ensuite, en 2020, je sors un livre de nouvelles érotiques dans lequel revient Drusilla. Et là, elle a un rôle beaucoup plus important dans l'une des nouvelles. Elle est toujours la servante, plutôt la gouvernante du narrateur, mais on sent plus ou moins, d'après ce que j'écris, que c'est aussi sa compagne, d'une certaine manière.
Est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire un petit extrait de cette nouvelle Drusilla que vous venez nous présenter ce matin sur Radio Bulle, Stéphane Puchot ?
Oui, volontiers.
Allez, on en terminera par un extrait et j'espère qu'il vous donnera envie de découvrir ce personnage. Ou encore Magnus, on en a parlé en première partie d'interview, mais là pour le moment c'est un extrait de Drusilla.
Les trois syllabes romaines se dressent promptement, dès lors que son nom est prononcé à voix haute, dans cet espace scolaire où un certain nombre de têtes se voit délivrer un savoir dans une atmosphère religieuse. Et la récitation commence. Le visage tourné vers les autres, l'apparence et le magnétisme hiératique de la jeune élève officiant pleinement dans l'espace-temps scolaire, exilant une diction lente, claire, souveraine, exempte de la moindre faute, du plus modeste oubli, de tout relâchement rythmique. Assumant totalement l'abondance des mots, ayant momentanément habité sa mémoire, qui peut désormais se délivrer. La cage thoracique et les cordes vocales de Drusilla œuvrent de concert pour expulser la gravité d'une voix unique, lisse comme du métal, qui pénètre entièrement dans le système auditif, si profondément que le cortex se trouve rivé à lui-même, enveloppé d'une séduction sans borne.
Voilà pour un extrait de Drusilla. Comment on peut se procurer vos livres, Stéphane Pucheux ?
Alors, de plusieurs manières. On peut directement les commander via le site du Lys Bleu. Et ensuite, on le trouve, bien entendu, dans toutes les librairies. En commande aussi, pour l'essentiel, ainsi que sur les sites qui vendent des livres de littérature.
Quelle librairie ici, en Lot-et-Garonne, on a des adresses à communiquer ou pas ?
Oui, bien sûr. Alors, on peut le trouver à la Sainte-Famille.
D'accord.
Chez Martin Elbert.
Très bien.
Et chez Cultura.
Et ben voilà, les amis. Comme ça, vous pouvez aller récupérer, acheter un bouquin d'un auteur local. Et c'est un univers captivant. Vous l'aurez compris, c'est de la littérature abstraite. C'est une nouvelle forme de littérature. Et moi, je suis ravie de partager ça avec vous. Merci beaucoup, Stéphane Pucheux.
Merci à vous.
À très vite. Les amis, on se retrouve rapidement, nous, dans un instant, juste après le top de la musique sur Radio Bulle, rythme la jeunesse.